Chapitre 19. L'homme à l'étude, les sciences humaines. Dans ce chapitre, les sciences de l'esprit, les sciences de l'homme, les sciences du langage, les sciences du passé. Les sciences humaines ne sont pas des sciences naturelles, comme la physique, la chimie, la biologie, etc. En somme, des sciences exactes. D'une façon générale, les sciences humaines regroupent les disciplines traitant de l'homme, que sont l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, ainsi que les disciplines de l'esprit, que sont la psychologie, la psychanalyse, des groupes humains et du langage. Les sciences de l'esprit. Le mot psychologie de psyché, étymologiquement science de l'âme, apparaît en grec chez Göckel, auteur allemand, en 1590, et désigne ce que l'on nommera par la suite introspection et qui consiste surtout en une observation intérieure. La psychanalyse prend au début du XXe siècle le relais de la psychologie.
Un peu de technique. Votre psy sur ordonnance. Comme toutes les sciences et a fortiori les disciplines à visée thérapeutique, les sciences de l'esprit sont compartimentées en fonction de leur objet d'étude. De même, leur exercice est strictement réglementé. Avant de consulter, écoutez donc la notice. La psychiatrie, discipline médicale, a pour objet l'étude et le traitement des désordres psychiques. Son exercice exige une formation à la faculté de médecine après une spécialisation. Ces deux méthodes thérapeutiques sont la psychothérapie et l'utilisation de psychotropes, médicaments, car le praticien est habilité à les délivrer sur ordonnance. La psychanalyse n'est soumise à aucun diplôme. Tout le monde peut être psychanalyste. Mais il est obligatoire, en revanche, d'avoir préalablement fait une analyse. La plupart des psychanalystes possèdent une formation de psychologie à la faculté. La psychothérapie peut être exercée sans diplôme. Aucun n'est délivré pour ce titre. Mais un grand nombre de psychothérapeutes sont souvent des psychiatres. Un amendement à l'article 18 du Code de la santé a été voté le 8 octobre 2003, précisant que toute psychothérapie entreprise doit relever des médecins psychiatres, médecins et psychologues.
La psychologie. Après une première apparition, dès le XVIe siècle, on trouve le terme psychologie au XVIIe et XVIIIe siècle chez le philosophe allemand Christian von Wolff. Puis il réapparaît en 1807 dans un ouvrage de Meyn de Biran, Mémoire sur les perceptions obscures, mais il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que la psychologie se structure comme une science à part entière. La naissance de la psychologie. En 1879, Wilhelm Wundt crée à Leipzig un laboratoire qui entraîne à l'ouverture de bien d'autres. Ses premières études portent sur la vision et la perception. Il est le premier à employer la méthode expérimentale de l'introspection. Mais le véritable passage de la philosophie vers la psychologie s'effectue avec le philosophe allemand Wilhelm Dilthey. Dans « Introduction à l'étude des sciences humaines » en 1883, il s'attaque à la pensée positiviste qui, par son souci d'explication, mène à une réalité abstraite. Il démontre que l'essentiel est de reconstruire la réalité humaine tant du point de vue social qu'historique. Karl Jaspers, dans « Psychologie des conceptions du monde » en 1919, favorise l'apport de la psychologie dans le courant existentialiste. La psychologie va de plus en plus se débarrasser des références philosophiques et religieuses pour se tourner vers celles de l'empirisme et de l'expérimentation. Le premier pas fait, il n'y aura plus de temps mort. Une autre tentative est faite en France, sous l'égide du philosophe et psychologue Théodule Armand Ribot. Il s'agit de la psychopathologie qui veut connaître à partir de ses maladies le fonctionnement du psychisme. Ribot admet la nécessité d'avoir recours pour les sciences psychologiques à une méthode comparative qui utilise les connaissances des autres sciences humaines. Inspiré par le philosophe Taine, il propose d'étudier les maladies de la mémoire en 1881 ou les maladies de la volonté en 1883, puis étend son champ d'investigation avec les maladies de la personnalité en 1885.
Le saviez-vous ? Une école sur mesure. Allant à l'encontre du courant qui cantonne la psychologie dans les statistiques et les mesures de laboratoire, Alfred Binet s'oriente vers l'analyse du développement mental, et plus exactement vers l'observation des enfants. Ses travaux sont restés célèbres est lié au premier test d'intelligence en 1905, qui eut un grand renom aux États-Unis. Alfred Binet s'intéresse surtout à la façon dont la machine mentale fonctionne et délaisse les sensations, les fonctions élémentaires. Sa fameuse échelle métrique de l'intelligence permet d'évaluer le développement mental et surtout l'âge mental du patient. Grâce à la distinction faite à chaque âge, car son système s'applique à des enfants de 3 à 16 ans, il met en relief à partir d'une certaine série d'épreuves l'âge au-delà duquel un enfant ne peut aller. Mais surtout, il apporte une réponse aux échecs scolaires et souhaite voir adapter à ce type de problème une école sur mesure.
Les grandes étapes de la psychologie. Charles Darwin impose en 1859, dans L'origine des espèces, l'idée d'une continuité évolutive entre les singes et les hommes, théorie fondée sur des conditions biopsychologiques. Depuis Claude Bernard, la psychologie connaît dans cette seconde partie du XIXe siècle un grand développement. Ivan Sechenov, prédécesseur de Ivan Pavlov, crée la psychophysiologie et centre tout son intérêt sur l'étude des réflexes et des mécanismes du cerveau que Pavlov reprend à son tour dans ses recherches autour de la méthode du réflexe conditionné. Ce qui l'amène à se pencher sur les troubles de la personnalité, tandis que les premières recherches simultanées sur l'effet des médicaments chimiques appliqués aux fonctions cérébrales renforcent l'élaboration des conceptions psychiatriques naissantes. D'autre part, et selon les principes chers à Hippocrate, Pavlov détermine 4 types nerveux et caractérologiques. L'excitable, l'inhibé, le calme, le vif. Entre 1900 et 1930, c'est l'importance que la caractérologie prend dans tous les domaines qui caractérise le mieux cette période. Avec la psychologie du point de vue behaviorist, article publié en 1919, John B. Watson, professeur de psychologie animale, se rallie à la méthode du réflexe conditionné de Pavlov et donne à la psychologie une nouvelle orientation en la limitant à la seule observation extérieure, ainsi que l'expliquent les autres sciences de la nature. La psychanalyse. Connu essentiellement par ses travaux de neurologie, Jean-Martin Charcot est pourtant l'un des premiers à utiliser l'hypnose pour traiter l'hystérie. En 1882, Hippolyte Bernheim s'intéresse lui aussi aux phénomènes hypnotiques et montre que ceux-ci sont des états induits par la suggestion. L'hystérie elle-même est créée par la suggestion. Il utilise donc l'hypnose en psychothérapie. Le sommeil ainsi provoqué peut permettre de faire ressurgir des souvenirs anciens occultés par le conscient. Ayant travaillé dans les services des docteurs Charcot et Bernheim, Sigmund Freud peut lui aussi observer des paralysies provoquées par l'hystérie et les conséquences de souvenirs traumatiques. De retour à Vienne, il utilise à son tour l'hypnose pour soigner ses patients. La psychanalyse, selon Freud, se veut un procédé thérapeutique spécifique qui évolue vers une science du psychique inconscient. Freud crée ainsi une méthode originale d'exploration de l'inconscient, le SA. Nécessaire et légitime, le « ça » est dominé par le principe de plaisir et traduit les forces profondes et involontaires de la vie humaine. Mais les tendances destructrices des phénomènes psychiques inconscients s'expliquent par le mécanisme du refoulement, une protection du « moi » face aux pulsions interdites ou réprimées par les instances morales. En se conformant aux règles sociales, l'enfant ou l'adulte se heurte à une censure et va refouler sa libido, formule latine qui signifie « envie », désir, sensualité à laquelle Freud donne le sens d'énergie des pulsions sexuelles. Son origine biologique évolue en 3 stades. Le premier stade est le stade oral, qui va de la naissance au 5e mois, avec plaisir de la succion du sein. Le deuxième stade est le stade anal, de 1 à 3 ans. Le troisième stade est le stade œdipien, de 3 à 5 ans, quand les organes génitaux sont la source du plaisir. Le garçon est jaloux de son père, la fille de sa mère, puisqu'il voit en eux des rivaux. Puis Freud remanie sa théorie et distingue les 3 instances psychiques de l'inconscient. Le « ça », qui est l'ensemble des pulsions impersonnelles, le « moi », en rapport avec le principe de réalité à qui revient la défense de la personnalité, et le « surmoi », qui représente la censure, l'autorité, les interdits avec pour conséquence le refoulement. Freud envisage le rêve sous toutes ses formes et montre qu'il permet de réaliser les desseins inavoués dans l'interprétation des rêves en 1899. En 1904, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, il étudie les lapsus, les actes manqués. C'est par eux, écrit-il, que l'homme trahit le plus souvent ses secrets les plus intimes. Dès 1920, il distingue dans Eros et Thanatos l'instinct de vie et l'instinct de mort, les seuls qu'il admet à côté de la pulsion libidinale. Les sciences de l'homme. Les disciplines qui étudient la nature humaine et les rapports humains donnent d'abord naissance aux traités de morale, de théologie et racontent l'histoire, les mythes, les légendes. S'y ajoutent ensuite l'anthropologie, l'ethnologie, l'archéologie, la sociologie, la psychologie qui sont préoccupées de l'homme comme des prolongements économiques et techniques de ses productions. Au cours des siècles, l'anthropologie s'est scindée en deux branches, la branche culturelle et la branche physique. La première étudie les sociétés humaines selon leur langue, leur religion, leurs pratiques sociales. La seconde, selon leur évolution biologique et psychologique. L'anthropologie. Pour que naisse l'idée d'un devenir humain et d'un individu vivant différemment de soi, il fallait une prise de conscience, de structure mentale et sociale différente de celle qui existait avant le XVIIIe siècle. Les modernes du XVIIe siècle, Descartes et Pascal, voient en l'homme un être raisonnable et en la raison quelque chose d'immuable qui ne peuvent être dépassés par les stades évolutifs de la nature. Il faudra l'œuvre conjuguée des voyageurs naturalistes et celle des encyclopédistes pour briser cette immobilité. La naissance de l'anthropologie. Les grandes découvertes géographiques qui donnent les éléments d'un cadre spatial et la remise en cause de la nature et de l'homme par les philosophes qui fournissent de nouvelles réflexions sur la nature humaine apportent l'impulsion nécessaire à cette transformation. La principale nouveauté est le fait de retrouver des lois aux phénomènes humains et d'expliquer par des causes naturelles le développement des civilisations. Mais aucune théorie ou hypothèse ne fera son apparition pendant ce siècle. En détruisant la théorie des idées innées, les sensualistes ont donné une base solide à l'étude des acquisitions successives de l'humanité. Les idées innées, rattachées pendant longtemps aux dogmes théologiques, vont être envisagées dans le désir de trouver des explications rationnelles au développement des cultures et de les appliquer aux phénomènes humains. L'ethnologie fait une timide apparition lorsque les encyclopédistes sont amenés à constater certaines analogies dans la diversité des coutumes de peuples très différents. L'année 1790 marque la date de création de la Commission des monuments historiques, dont la conséquence première est la création de nombreux musées et le début de campagnes de fouilles qui permettent aux hommes des Lumières d'enrichir leurs connaissances sur leur origine. Mais pour l'ensemble des encyclopédistes, l'histoire reste une discipline qui dresse des catalogues. Seul Condorcet, en 1793, dans « Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain », démontre que le progrès fait partie de l'histoire. Lorsque la connaissance de la Terre progresse, une idée d'ordre se dessine pour aboutir non seulement à la description, mais à la classification de ces couches géologiques envisagées jusqu'alors de formation simultanée. Buffon, le premier parmi d'autres philosophes, étudie progrès et devenir humain dans une perspective historique et suppose même une histoire à la Terre. Les théories de l'évolution. Georges Buffon est souvent perçu comme l'un des principaux précurseurs du transformisme, théorie sur l'évolution des espèces humaines mise au point par Jean-Baptiste de Lamarck et Charles Darwin. Le terme d'évolution jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est synonyme de développement et de progrès et signifie que toutes les espèces animales ou végétales se modifient au cours du temps. L'évolution touche d'abord au domaine de la biologie, sous l'impulsion des théories de Lamarck et de Darwin. Pourtant, ce sont Herbert Spencer et Lewis Henry Morgan qui structurent l'évolutionnisme par leurs travaux ayant pour but d'expliquer le développement des formes de vie sociales selon des phases et une direction. La classification des espèces. Buffon et ses recherches auraient permis à la pensée évolutionniste du XIXe siècle de se développer. Il critique vivement la classification de Carl von Linné qu'il juge trop arbitraire. En réunissant taxinomie, ou classification systématique des êtres vivants, et physiologie, il donne un nouvel énoncé au problème. Le concept de reproduction est pour lui œuvre de nature, alors que celui de génération demeure œuvre de Dieu. Il substitue le premier au second et pose en 1749 le problème délicat de l'origine humaine. À l'encontre des hypothèses de Voltaire qui posent que blanc, noir et jaune ont été créés séparément et forment des espèces distinctes, il pense que l'espèce humaine est homogène. Dépassant le sens restrictif qui à son époque ne désigne que l'étude du corps humain, Buffon saisit dans l'anthropologie deux notions. L'unité de l'espèce humaine et sa diversité, et l'envisage pour désigner à la fois l'ensemble des concepts sur la nature de l'homme et le mouvement des sociétés en général. En considérant un devenir de l'espèce humaine, Buffon ouvre une voie d'accès vers le transformisme de Lamarck. Le transformisme. Dans son discours d'ouverture de l'an 8, Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck, ébauche déjà ce que Jean Rostand appelle la première théorie positive. Lamarck accorde dans le processus de l'évolution une place essentielle aux circonstances qui ont une action déterminante et directe sur l'environnement. Il professe que les formes vivantes complexes se sont développées à partir de formes plus simples, résultat des variations du milieu ambiant et des organismes. Les grands axes de ces théories vont se développer à partir de 1802. Buffon, 20 ans plus tôt dans les époques de la nature, situe les débuts de l'histoire de la vie à 70 000 ans et non aux 6 000 ans bibliques. Lamarck la chiffre en millions. Sur une durée aussi longue, il décrète que la base de toute vie n'est pas l'immuabilité mais la transformation, puis fait l'hypothèse qu'une fois acquise, celle-ci se transmet de génération en génération. C'est le transformisme. Créateur du mot « biologie », il l'utilisera pour désigner tout ce qui est commun aux végétaux et aux animaux. Les attaques incessantes de Georges Cuvier, alors pair de France et créationniste convaincu, celles d'une société qui ne supporte aucune atteinte à la Bible, vont considérablement freiner l'évolution et minimiser l'importance de cette doctrine. La sélection naturelle. Lorsque l'origine des espèces paraît en 1859, la cause du transformisme est déjà bien avancée. Charles Darwin refuse de reconnaître tout lien de filiation entre ses théories et celles de Lamarck. Sa doctrine repose sur plusieurs principes. Le principe de la variabilité de l'espèce, comme quoi les êtres vivants dérivent d'une souche ancestrale commune qui va se diversifier selon trois phénomènes déterminants, le système reproducteur, l'hérédité et les corrélations de croissance. Le principe de la sélection naturelle, qui est le résultat d'une lutte pour la vie qui fait survivre les uns, disparaître les autres. Réponse que lui souffle Thomas Malthus dans son essai sur le principe de la population en 1798, et le principe de la sélection sexuelle, qui est la conséquence de la lutte des mâles pour posséder les femelles, par laquelle les plus beaux et forts des deux sexes ont toutes les chances d'assurer leur descendance. Cette sélection est ajoutée en 1871. Plus tard, les théories à tendance vitaliste s'opposent à l'idée darwinienne de la sélection naturelle. Celles de Henri Bergson et de Pierre Teilhard de Chardin, entre autres, attribuent l'évolution à l'intelligence de la matière vivante, à l'élan vital et à une force supérieure qui font converger les organismes vers un sommet.
N'oubliez pas, le darwinisme dévoyé. Les théories darwiniennes se diffusent assez rapidement et l'évolutionnisme pénètre toutes les sciences de la nature. Assez vite, son schéma est appliqué à l'espèce humaine et constitue un darwinisme social. Chaque homme trouvant sa place au sein de la société, selon ses aptitudes biologiques, est l'explication nécessaire à toute évolution du progrès. Il est facile d'imaginer les abus scientifiques qui en découlent. Arthur de Gobineau se livre ainsi à l'étude de la race aryenne, groupe mythique qui a selon lui fondé la civilisation et dont les descendants directs seraient les Germains. Hitler reprendra à son compte les grandes lignes de ce système de pensée, pour mettre au point sa théorie des races et justifier la solution finale, c'est-à-dire l'extermination concertée et systématique de millions de juifs, de tziganes et d'homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale.